Bonjour. Ah, parlez-moi de ça. OK. Bon. À la fin du repas du Seigneur, Jacques, en terminant, a dit, Benoît, une question pour Jésus. Vous savez, si... Ça s'en vient tranquillement. Oh, je vais faire un petit test. Là, voilà. Une question pour Jésus. Si je vous posais la question, une question ce matin, vous avez l'opportunité ce matin de demander quelque chose pour Noël. Cassez-vous pas la tête, là. Demandez quelque chose vraiment que vous avez à cœur pour Noël. Donc, dans le fond, je veux vous offrir, ou quelqu'un veut vous offrir vraiment un cadeau incroyable ce matin. Bien, dépendamment de qui vous êtes, et de l'âge que vous avez et de la situation dans laquelle vous êtes, peut-être que votre demande va être différente. Si pour vous, quelque chose qui vous intéresse, c'est un peu le matériel, vous êtes en manque, vous avez des besoins au niveau du matériel, peut-être que vous allez dire, ben là, moi j'aimerais ça avoir une voiture pour Noël. J'avais pensé prendre ma voiture en photo hier puis la mettre dans le PowerPoint, une Corolla 2004. Quoi? Il y a peut-être des gens qui seraient bien heureux de l'avoir. Mais je me suis dit, on va aller chercher au moins quelque chose d'un peu plus récent. Bon, je ne sais même pas c'est quoi ce véhicule-là. Oh, il y en a une gang qui aimerait l'avoir. Ah, c'est une Ferrari, merci. Moi, j'ai dit, trouve-moi une voiture de luxe. Bon, c'est une Ferrari, on n'y va pas à peu près. Bien, pour d'autres qui ont déjà peut-être une Ferrari ou qui avaient déjà une voiture, vous vous dites, là, moi, si je pouvais avoir une maison... Tant qu'à y être, mettons une piscine aussi. Mais peut-être que vous êtes quelqu'un qui vous dites, bon, pour moi, le matériel, c'est pas ça qui m'intéresserait le plus pour Noël. Ce que j'aimerais avoir, moi, dans le fond, c'est être quelqu'un qui est en santé. Parce que j'ai des bobos, j'ai toutes sortes de problèmes, puis il me semble que si je pouvais demander ça, d'avoir la santé pour Noël, je serais donc content d'avoir ça. Pour d'autres qui pensent peut-être c'est pas l'aspect physique, c'est pas l'aspect matériel, c'est peut-être l'aspect relationnel. Des gens qui peuvent avoir un peu le cœur brisé, des amitiés qui ont été brisées, des familles qui sont déchirées, et qu'on aimerait donc, dans le temps de Noël, que toutes ces choses-là soient réparées. Vous savez, Marie-Chantal Toupin, elle chante un chant à un moment donné, puis elle dit « Tout ce que je veux pour Noël, c'est de l'amour. » Que les gens puissent vraiment s'aimer. Donc, ce serait plus l'aspect relationnel. Mais pour certains aussi, c'est pas ça. Pour certains aussi, c'est des gens qui aimeraient avoir des réponses à leurs questions. Des gens qui se posent des questions sur le sens de la vie, sur la mort. Des gens qui se posent des questions pour surtout... Moi, je regarde, j'ai reçu un courriel il y a quelques semaines de ça qu'il y a quelqu'un qui me partageait par courriel qui a été découragé parce que ça va tellement mal dans le monde. Quand on prend le temps de regarder et d'écouter les nouvelles. Donc, sans doute que cette personne-là, elle aimerait avoir des réponses par rapport à pourquoi ça va si mal. Pour d'autres, à cause des situations qu'ils vivent, peut-être que c'est « Seigneur, pourquoi ça m'arrive ce que je vis présentement? Pourquoi ça m'arrive à moi? » Et pourquoi maintenant? Donc, des questions qu'on aimerait avoir, pour lesquelles on aimerait avoir des réponses. Vous savez, il y a un personnage dans la parole de Dieu qui avait une question bien importante à poser. C'est Jean-Baptiste. Je vous inviterai à tourner avec moi, s'il vous plaît, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11. Matthieu, chapitre 11. À partir du verset 1, on y lit. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, c'est Jean-Baptiste, il y a une autre question ici, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, Les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute jusque-là. Plusieurs d'entre nous connaissons Jean-Baptiste. Et quand on pose des questions pour imaginer un peu comment Jean-Baptiste, souvent les premières choses qui nous viennent à l'esprit, c'est un homme qui vivait quelque chose qui n'était pas nécessairement facile. Quelqu'un qui était dans les déserts et qui rencontrait des personnes, puis qui était habillé d'une manière un peu bizarre. Avec un vêtement de poils de chameau, une ceinture de cuir, puis il mangeait des sauterelles puis du miel. Bon, j'ai jamais mangé de sauterelles. Quelqu'un cette semaine me partageait qu'il lui en a mangé, puis ça supposément que c'est bon. Ça se rapproche des crevettes, mais j'aime autant les crevettes personnellement, là, j'imagine. Donc, Jean-Baptiste est quelqu'un qui vivait d'une manière assez austère et quelqu'un qui, quand même, avait un message qui était assez rough, qui se promenait et qui criait aux gens, il leur disait de se repentir car le royaume des cieux est proche. Et les gens étaient intrigués par Jean-Baptiste, étaient même touchés par ce qu'il apportait. Mais voilà que Jean-Baptiste se ramasse en prison. C'est ce qu'on a lu. Il se ramasse en prison. Puis, il se pose une question. Il se pose une question qui est bien importante au verset 3. Il dit, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Quand j'ai lu ça, dans les premières fois, je me suis dit, voyons donc, c'est quoi? Jean-Baptiste qui se pose une pareille question. Jean-Baptiste qui avait certains doutes, ou du moins qui était perplexe, ça me dépasse à quelque part. Parce que quand tu regardes dans la parole de Dieu, qui est Jean-Baptiste, ce qu'il a dit, ce qu'il a accompli, tu te dis, voyons donc, ça, comment ça se fait qu'il pose une pareille question? Parce que c'est Jean-Baptiste, c'est le même Jean qui avait dit en voyant Jésus venir à lui, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui que lorsque Jésus a été baptisé, a vu le Saint-Esprit descendre comme sous une forme de colombe sur le Seigneur Jésus. Et c'est Jean-Baptiste qui a entendu une voix, pensez à ça là, il a entendu une voix qui vient du ciel et qui dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Hey, c'est toute une expérience qu'il a vécue. Et plus tard, Jean-Baptiste a même pu dire, j'ai vu, en parlant de Jésus, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jean-Baptiste avait déjà toutes ces convictions-là. Et même lorsque ses disciples sont venus le voir à un moment donné pour dire, regardez, regarde ce que Jésus est en train de faire, c'est incroyable. Il a pu dire, je vous l'ai dit, c'est pas moi le Christ, c'est lui. Mais lui, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Donc, Jean-Baptiste était bien au courant du ministère qu'il avait à faire, à accomplir. Mais voilà tout à coup qu'alors qu'il est en prison, il pose une pareille question. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, c'est regarder quelques raisons. Il peut en avoir plusieurs, mais j'en ai sorti trois raisons qui peuvent nous aider à comprendre un peu mieux qu'est-ce qui a pu se passer pour que Jean-Baptiste en vienne à avoir ces doutes-là. Et que pour nous, ça puisse nous servir aussi un peu comme leçon ou qu'on puisse vraiment en tirer des grandes leçons pour nos vies. Il y a trois raisons, je vous disais, qui peuvent nous semer le doute dans notre esprit. La première raison, c'est les circonstances. Vous savez, Jean était en prison depuis, on pense, au-dessus d'un an. Il a été emprisonné parce qu'il a eu le courage de dire au roi Hérode que c'était un adultère, parce que commettait l'adultère avec la femme de son frère. Et cet homme-là, Jean-Baptiste, à cause de ça, notamment, il se ramasse en prison. Je suis allé il y a peut-être 3-4 ans faire une petite visite ici à Trois-Rivières, la prison de Trois-Rivières, la vieille prison dont il parle. Je vais aller voir ça, puis on nous fait faire une visite guidée. Mais tout le monde qui les a quasiment le plus impressionnés, vous savez, c'est quoi? C'est le trou. Où là, on descend, on a quelques lumières quand même, et là, ils nous installent à l'endroit où on mettait les prisonniers, et tout à coup, on éteint les lumières. Et là, tu es quelques personnes là, dans le trou, tu dis, wow, ça ne devait pas être facile pour le prisonnier qui se ramassait ici. Et vous savez, la prison de Trois-Rivières, même si ça devait être dur, on est loin des prisons qu'il y avait à l'époque du roi Hérode. Les conditions de détention des prisonniers à ce moment-là étaient pas mal plus dures. Donc, les circonstances dans lesquelles Jean-Baptiste se retrouve ne sont pas faciles. Et bien qu'on n'en ait pas la certitude à 100%, des auteurs, des historiens comme Joseph, l'historien juif, pensent qu'effectivement, on a une idée d'où était justement la prison dans laquelle, où est-ce que c'est qu'était incarcéré Jean-Baptiste. Et cet endroit-là, ça s'appelait la forteresse de Malchérus, ou encore de Machéronte en tant que telle. Vous voyez, c'était une forteresse qui était située sur une montagne qui avait plus de 1000 mètres d'altitude, et au loin, le bleu qu'on voit dans le bas, c'est la mer Morte. Et les historiens nous disent que quand on voit cet endroit-là, moi, je n'ai pas une photo très précise, mais on est rendu sur le dessus, il y a des endroits où on voit les fosses dans lesquelles on mettait les prisonniers, que peut-être, effectivement, c'est un endroit comme ça que Jean-Baptiste s'est ramassé. Et mettez-vous un peu à la place de Jean, un homme qui était si courageux, un homme qui a prêché vraiment avec passion un message qui n'était pas facile, qui était fidèle au Seigneur, qui était habitué de prêcher dans les déserts, oui, dans les déserts, mais à des endroits où il y avait du monde, étant donné qu'il prêchait, bien entendu. Et là, il se retrouve confiné dans une prison humide où c'est très difficile et il est là depuis un an et demi. Ça n'a pas dû être facile pour lui, ces circonstances-là, et c'est ce qui a pu l'amener peut-être un peu à douter. Vous savez, pour nous, à quelque part, il y a peut-être une petite leçon pour nous aussi là-dessus, parce qu'il peut arriver que dans notre vie, même si on sert le Seigneur avec fidélité, avec hardiesse, qu'on y déploie même un grand sacrifice de nos vies pour le servir, on n'est pas à l'épreuve personne d'une ou de tragédie dans nos vies. Un peu comme Jean a vécu. Et ça peut être très difficile alors de ne pas se poser des questions au sujet de l'amour de Dieu, de la justice de Dieu. C'est arrivé à Jean-Baptiste. Ça peut nous arriver à nous aussi. Rencontrer des gens qui ont vécu la perte d'un enfant. Rencontrer des gens qui apprennent qu'ils sont victimes d'un cancer. Il y a un paquet de circonstances qui font que lorsque ça arrive, ça frappe très durement. Et ces circonstances-là vont faire que quelque part, des fois, oui, on peut être un peu comme Jean-Baptiste et se demander au Seigneur peut-être, « Seigneur, pourquoi t'as permis cela? Toi qui es si puissant. » Je me retrouve dans des circonstances, me semble, qui n'ont pas de sens par rapport à ce que tu devais attendre de moi. Donc, les circonstances peuvent être un élément qui peuvent semer le doute. Ça a été vrai pour Jean-Baptiste, ça peut être vrai pour vous et moi. Il y en a une deuxième circonstance aussi, c'est l'influence du monde. Et ça, c'est plus subtil. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, rappelez-vous qu'à l'époque où Jean-Baptiste a vécu, il n'y avait pas la parole de Dieu au complet, d'accord? Mais il y avait quand même une bonne partie de l'Ancien Testament qui était là. Et les chefs religieux d'alors qui lisaient quand même, qui connaissaient les Saintes Écritures, étaient au courant de certaines choses. Mais voyez-vous, ce qui arrivait, c'est que ces chefs religieux-là qui étaient là avaient ce que j'appellerais une conception très partielle de l'œuvre du Messie qui devait venir. Non pas qu'elle était erronée, mais ce qu'ils en retenaient, c'était juste une partie en tant que telle de ce que le Messie devait accomplir. À quelque part, Ce qui les intéressait, c'était peut-être plus ce qui ferait leur affaire vraiment, eux autres, avec la venue du Messie qui était annoncée et les actions qu'ils devaient poser. Et certainement que ça a eu un impact, cette conception-là, ça a eu un impact sur le peuple juif. Ça en a tellement eu un impact que même les disciples de Jésus le talonnaient à l'occasion pour savoir quand est-ce que le Messie établirait son royaume. Quand est-ce qu'il ferait ça? Parce qu'il faut se rappeler que ces Juifs-là, à cette époque-là, étaient sous le joug des Romains. Et pour eux, c'était pas facile. Et eux connaissaient vraiment, oui, une partie de l'histoire. Ils voulaient peut-être pas en retenir, mais ils s'attachaient vraiment à la partie qui disait que lorsque le Messie viendrait, ben, il établirait vraiment son royaume, lui. Donc, lorsque le Messie serait là, il les débarrasserait des Romains par n'importe quel moyen. Et là, vraiment, eux pourraient être le peuple, étant donné qu'ils sont le peuple élu, jouir d'un temps vraiment de paix, et eux auraient une position vraiment extraordinaire dans ce royaume-là. C'est cette partie-là qui les intéressait, qu'ils auraient voulu voir accomplir. Pourtant, Jésus ne s'oppose même pas à Rome. Il va même dire à un moment donné qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Une conception partielle. Et c'était tellement ancré dans le peuple à cette époque-là que lorsque même qu'on confrontait Jésus, les chefs religieux le confrontaient pour savoir si c'était lui le Christ, ils ne croyaient pas plus. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10, au verset 24, les leaders juifs se sont approchés de Jésus, lui ont demandé ceci. Ils lui ont dit, « Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement, si c'est toi le Messie. » Parce que le mot « Christ », dans le fond, c'est le dérivé grec du même mot. « Si c'est toi le Messie, si c'est toi le Christ, dis-le-nous franchement. » Et Jésus de leur répondre, « Je vous le dis et vous ne me croyez pas. » Il leur confirmait, mais ces gens-là ne voulaient pas croire parce que tout ce qu'ils voulaient voir, c'était un aspect seulement du rôle que devait jouer le Messie. Et ça, cette pensée-là l'a influencé énormément la conception que les gens avaient du Messie de son rôle. Vous savez, on est en 2014 et j'en reviens pas encore aujourd'hui de voir comment les gens peuvent être confus et perplexes par rapport au plan de Dieu pour la même raison. Les gens aujourd'hui, notre esprit est encore très influencé, soit parce qu'on a pu entendre dans différentes religions, soit encore parce que certaines sectes peuvent promouvoir, toujours à l'égard du Messie, ou soit même parce que la philosophie peut enseigner sur qui est vraiment Jésus. Voyez-vous, toutes des approches qui peuvent venir influencer une conception qu'on peut avoir de Dieu, de Jésus et du plan de Dieu pour l'humanité. Parce qu'on ne veut pas se rattacher spécifiquement à ce que dit la parole de Dieu. Donc, à ce moment-là, on est influencé par tout ça. Et là, ça va amener des critiques parce que, voyons donc, si Dieu est amour, comment ça se fait qu'il permet qu'il y ait des famines sur la terre et qu'il y ait des guerres comme ça? Si Dieu est juste, ben comment ça se fait que le monde est rempli d'injustice? Et on en met. Et plus on vient à se faire une conception qui est erronée, plus on va venir même à être non seulement perplexe et douter, mais on va même accuser Dieu de ne pas être correct. Ce qui est important, c'est de réaliser que ce monde-là a une influence, comme il l'avait à l'époque de Jean-Baptiste, et là aussi sur le monde actuel. Et c'est important de revenir à ce que la parole de Dieu dit. C'est pour ça que Jésus a dit dans, non pas Jésus, mais Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, il dit « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Voyez-vous, les vérités spirituelles, ils ne proviennent pas de la sagesse humaine. elle provient de la sagesse, d'une révélation qui vient de qui? De Dieu. Et c'est là-dessus qu'il faut se baser pour avoir une idée juste de justement de qui est Dieu, qui est Jésus, qui est le Messie. Donc, non seulement on a les circonstances qui ont pu influencer Jean-Baptiste, qui a semé le doute, mais on a aussi l'influence du monde d'alors. Mais il y a une troisième raison aussi, que j'appellerais, qu'on dirait, les attentes qui étaient insatisfaites. Au verset 3 du chapitre 11, lorsque Jean dit « Es-tu celui qui doit venir? » Et il termine en disant « Ou devons-nous en attendre un autre? » Il semble assez évident que pour Jean-Baptiste, ses attentes par rapport au Messie ne sont pas comblées. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que si on se met dans les souliers de Jean-Baptiste et au ministère qu'il avait, il y avait un rôle à jouer par rapport à la repentance, par rapport à annoncer le royaume des cieux, à annoncer que le Messie arrivait et même qu'il était là. Mais en plus, lorsqu'il prêchait, je vous lis juste quelques versets dans le chapitre 3, et qu'il criait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », il allait plus loin en disant, verset 11, 3, 11, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit, bonne nouvelle, mais et de feu, ça c'était une moins bonne nouvelle. Il a son van à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Et le message était clair pour les gens à l'époque. Quand on voulait séparer la paille du bon blé, on utilisait une espèce de pelle, un van, comme il est mentionné ici, pour séparer ça et mettre le blé dans le grenier puis brûler la paille. Et c'est ça que le Messie va faire. Oui, c'est ça qu'il va faire. Mais Jean, lui, il est là en prison puis il dit, mais voyons, j'ai eu à prêcher ça. Puis qu'est-ce qui se passe? Il n'y en a pas de jugement qui se passe à ce moment-là. C'est un jugement qui tarde. Et pour lui, c'est une attente qui est insatisfaite. Lui qui s'est consacré, puis que Dieu l'a appelé à proclamer sa venue. Es-tu celui qui doit venir? C'est ça. Es-tu celui qui doit venir? Puis pour les Juifs, c'était clair, quand on parlait de celui qui doit venir, c'était toujours le Messie, le Christ. Mais voilà que Jésus est là. Ce serait lui le Christ. Mais il n'y a pas de jugement qui s'exerce encore. Vous savez, lorsque on pense que on s'imagine ce que Dieu devrait faire et qu'on trouve qu'il ne le fait pas assez vite, ça peut semer le doute dans notre esprit à nous aussi. D'avoir des attentes qui sont insatisfaites. Mais le psaume 115 au verset 3 nous dit « Notre Dieu est au ciel. » Il fait tout ce qu'il veut. Dieu est souverain. Dieu a un plan et il va l'accomplir. Il va l'accomplir en son temps. Et pour nous, en 2014, est-ce qu'on en a des attentes à l'égard de Dieu? Puis des attentes qui ne sont pas réalisées comme on voudrait, puis que des fois, on se sème le doute. Tout à l'heure, je regardais la construction. Ça vous est-tu arrivé de dire, voyons, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ça ne construit pas assez vite. Ça vous est-tu arrivé d'avoir cette pensée-là? Moi, oui. Ben, à tous les jours. On est honnête, on le dit. Mais Dieu reste-t-il au contrôle de toutes choses? Même chose aussi. Et si je vous posais la question, c'est quoi la plus grande attente que les chrétiens devraient avoir? C'est quoi? Le retour du Seigneur. Souvenez-vous, lorsque vous avez accepté le Seigneur, que cette vérité-là, vous l'avez saisie de l'imminence de son retour, qu'il reviendrait chercher ses enfants, son Église, comment ça vous a bouleversé, comment ça m'a bouleversé et comment ça m'a amené, ou ça nous a amené à nous consacrer encore plus à l'œuvre, sachant qu'il pouvait revenir à tout moment. Mais ça fait combien d'années? Il n'est pas revenu encore. Il nous a-tu oubliés? Mais non, sa promesse est là, il nous l'a dit pourtant. On peut être là chercher des signes, toutes sortes de choses, mais il peut revenir à tout moment. Est-ce que j'ai gardé la même consécration? Ou que je suis venu à un moment donné à me dire, bon, Seigneur tarde, il tarde, là, il va peut-être venir, là. Non, les promesses sont là, puis ils vont s'accomplir. Et je devrais continuer à avoir cette même attente et à le désirer vraiment, l'attendre ardemment toujours. Donc, vous voyez que ce soit à cause des circonstances que Jean-Baptiste passait, l'influence que le monde avait sur lui, puis les attentes qui n'étaient pas satisfaites, on peut comprendre que ça peut avoir semé le doute dans l'esprit de Jean. Mais à quelque part, je suis heureux dans ce texte-là de voir que Jean savait à qui aller pour trouver une réponse à sa question, une solution à ses doutes. Mais pour Jean, ça a dû prendre un acte d'humilité. Parce que, imaginez, là, lui qui avait tant proclamé que les gens l'ont tout entendu, là, puis les gens se faisaient baptiser, lui est en prison, puis là, il faut qu'il commence par reconnaître lui-même qu'il a un doute. C'est la première chose, il faut qu'il commence par reconnaître qu'il a un doute. La deuxième, il faut qu'il reconnaisse que ce doute-là, il doit le partager parce qu'il ne peut pas avoir une réponse immédiate. Il faut qu'il le partage à ses disciples. Il faut qu'il soit assez honnête pour le partager à ses disciples pour qu'eux aillent poser la question à Jésus. Donc, non seulement il faut qu'il reconnaisse son doute, il faut qu'il le partage. Et là, à ce moment-là, qu'il se tourne vers Jésus pour avoir une réponse. Bien, pour nous, c'est un peu la même chose. Lorsque ça nous arrive de vivre des périodes plus difficiles, des situations plus éprouvantes, notre réaction devrait être la même. De reconnaître devant le Seigneur que oui, Seigneur, j'ai un doute. Puis je veux te le présenter parce que c'est toi qui peux me donner une réponse pour enlever ces angoisses, ces craintes-là que je peux avoir, par lesquelles je passe. C'est là laquelle est la solution. Et c'est pour ça que Jésus va donner une réponse. Mais c'est particulier, Jésus aurait pu dire, « Ben voyons, Jean, c'est moi le Messie. » Non. Qu'est-ce qu'il fait? Sa réponse n'est pas oui ou non. Il demande plutôt aux disciples de présenter à Jean-Baptiste ce que j'appellerais les preuves percutantes de son ministère. Il invite Jean-Baptiste à regarder à nouveau à ce qu'il est en train de faire dans le moment présent. Et c'est particulier parce que quand vous regardez au verset 4 et 5, on dit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Mais si on va voir dans l'Évangile en parallèle dans Luc, il va dire qu'à l'instant même, au moment même, là, à l'heure même, Jésus a tout de suite fait des miracles. Imaginez les disciples qui viennent poser une question, puis à l'instant même, Jésus fait des miracles, puis là, il leur dit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. » Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Tous des miracles, et même plus, je dirais, tous des miracles qui étaient déjà annoncés dans les Écritures que le Messie serait le seul à pouvoir faire. L'accomplissement à la lettre de ce qui était écrit dans les Écritures. Toutes des miracles comme ça. Vous savez, ça a certainement été, lorsque Jean-Baptiste a entendu ça, une occasion pour lui de se réjouir puis de se rassurer, je dirais, en cette période-là, vraiment, où il était seul, grande période de solitude puis si perplexe, de savoir que Jésus était toujours au contrôle. Mais si je vous pose la question, est-ce que la situation physique de Jean-Baptiste a changé? Il est toujours à la même place. Dans le donjon. Toujours à même place. Jésus ne l'a pas fait sortir de là. Et non seulement ça, on sait que le texte nous montre plus loin qu'est-ce qui va lui arriver. Il va être décapité. Mais est-ce que, par contre, ça lui a amené un encouragement? Moi, je suis fortement convaincu que oui. Que lorsque les disciples sont revenus en disant « Hey, Jean, regarde ce qu'on a vu! » et entendu de la part du Christ. Ça a certainement été un très, très grand encouragement pour lui. Et ça a certainement été aussi une occasion pour lui, pour que sa foi soit fortifiée. La réponse qu'il a eue. Il y a un auteur qui s'appelle Frédéric Botchner qui a écrit ceci. Il a dit « Les doutes sont des fourmis dans nos pantalons qui maintiennent la foi en mouvement. » C'est très imagé. Mais pensez-y, lorsqu'on a des doutes, lorsqu'on se ramasse dans des situations difficiles et qu'on a des doutes, qu'est-ce que ces doutes-là sont là? Bien, ils mettent à l'épreuve quoi? Notre foi. Et tout au long de notre vie chrétienne, oui, parfois on va en avoir des doutes comme ça, mais notre foi va nous amener à aller chercher des réponses par rapport à cela. Et si c'est vrai pour Jean-Baptiste que Jésus l'a invité à regarder puis à entendre, entendez et voyez, c'était ça dans le fond qu'il disait à Jean, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez, mais pour nous, le Seigneur nous invite aussi à l'écouter puis à voir ce qu'il a accompli pour nous. Tout à l'heure, Johan, en terminant, a fait une prière justement pour que le Seigneur nous donne de toujours nous rappeler qui il est et ce qu'il a fait pour nous. Revenir à ça. Jean-Baptiste a été obligé de retourner à ce que Jésus était en train de faire, qui prouvait qui il était, et ça lui a amené un grand encouragement. Mais pour nous, c'est la même chose aussi. Il est important qu'on retourne et qu'on écoute, puis qu'on prenne le temps de regarder ce que le Seigneur a fait. Et vous savez, nous, on a un privilège incroyable que Jean-Baptiste n'avait pas. Nous, on a la révélation complète dans la parole de Dieu. Ben, si je veux connaître le plan de Dieu, aussi bien dans le passé que dans le présent que pour le futur, il y a juste un endroit où je peux aller chercher ces réponses-là. C'est dans sa parole. Et on l'a au complet. Quel privilège on a. Mais immédiatement après ça, il arrive une petite chose qui est un peu particulière, que ça m'a tracassé très, très longtemps. Une délicate réprimande. Vous savez ce que Jésus dit à ce moment-là? Il prend la peine de dire aux gens, aux disciples d'aller retourner. Et là, il dit à tout le monde qui sont là, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » D'autres versions vont dire « Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » L'idée qui est là, c'est de faire tomber ou de trébucher. C'est tout simplement de dire « Heureux celui qui me voit comme je suis réellement. » Parce que ceux qui ne veulent pas me voir comme je suis réellement, bien, ça va être une occasion de chute pour ces personnes-là. Ils vont manquer d'accepter ce que je suis vraiment et ils vont avoir des conséquences qui vont avec. Oui, heureux, celui pour qui le Seigneur n'est pas une occasion de chute. Mais faisons attention de penser que Jean méritait plus que nous autres, on peut mériter parfois. Parce que immédiatement après, qu'est-ce que Jésus fait? Il fait l'éloge de Jean-Baptiste. C'est quelque chose. Une sollicitude incroyable à l'égard de Jean-Baptiste. Donc, oui, c'est vrai que Jean-Baptiste a pu avoir un doute, mais les réponses qu'il a eues ont certainement aidé à le rassurer, à persévérer au travers de tout ce qu'il vivait. Et Jean-Baptiste, on le dit souvent, on ne l'a peut-être pas dit souvent, mais je vous le rappelle, il est de la même nature que vous et moi. Et certainement que Jean-Baptiste a posé la bonne question à la bonne personne, puis il a eu la bonne réponse. Pour nous aussi, c'est important qu'on puisse vraiment faire cette démarche-là de poser la bonne question à la bonne personne pour nous attendre à avoir la bonne réponse. Mais peut-être que ce matin, vous êtes ici et vous vous dites « Ouais, c'est tout beau tout ça, mais même moi encore, là, j'ai des doutes. » Mais j'ai des doutes qui sont bien plus loin que ce que tu es en train de partager là. Benoît, moi, j'ai des doutes encore à l'égard de qui est vraiment Jésus. Et ça, c'est important. C'est important parce que il en va de exactement déterminer si Jésus pour vous va être une occasion de chute ou pas. Si vous allez être heureux ou malheureux. Oui, vous pouvez avoir des doutes ce matin, mais je vous invite, moi, à aller encore une fois à lui, afin de lui dire carrément dans vos mots cette petite doute-là que vous avez, puis de lui demander de vous éclairer. C'est important parce que faut bien comprendre que si les gens étaient un peu déçus de voir que le Messie qui était sur terre, qui faisait des miracles incroyables, qui guérissait des personnes et tout ça, n'a pas établi son royaume, vous savez pourquoi? C'est parce que dans le plan de Dieu, il est important qu'avant qu'il établisse son royaume, qu'il vienne pour nous sauver. Au lieu, avant que ce soit un Messie régnant, que ce soit un Messie qui soit là pour nous sauver. Et tout au long de son ministère, Jésus l'a expliqué à de nombreuses reprises qu'il fallait qu'il souffre, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite. Il fallait, les Écritures, il fallait qu'elles s'accomplissent parce que c'était ça que le Messie devait accomplir dans un premier temps pour vous donner à vous et à moi la possibilité d'être réconciliés avec Dieu. C'est le seul moyen que Dieu nous offre, parce qu'on l'a chanté tout à l'heure, à quel point vraiment sa grâce, elle est grande. C'est le seul et unique moyen pour être réconcilié avec Dieu, parce qu'on est séparé de lui à cause de nos péchés. Mais Dieu vous aime tellement que ce qu'il a envoyé sur la terre, c'est pas juste un petit bébé qu'il a envoyé sur la terre. Ce qu'il a envoyé sur la terre, c'est un bébé, oui, mais qui était 100% homme, 100% Dieu. Et que lorsqu'il est venu sur la terre, le but qu'il avait, c'était de se rendre jusqu'à la croix. Vous savez, la période de Noël, c'est une période encore plus propice à quelque part, je pense, pour justement réfléchir sur qui est vraiment Jésus. Oui, on va entendre des chants, un peu comme ce qui nous était partagé ce matin, des gens qui vont chanter, s'époumoner des chants, qui vont dire des vérités, mais que ces vérités-là ne les appliqueront pas à leur cœur. Ils vont être un peu comme les Juifs à qui Jésus disait qu'il était vraiment le Messie, mais vous ne me croyez pas. Vous pouvez chanter tout ça, mais ne pas croire que Jésus est le Messie. Celui qui était annoncé, qui est mort pour vous sur la croix, qui a pris à votre place la condamnation que vous méritiez, et qui est ressuscité, qui est vivant aujourd'hui. Donc notre prière ce matin en terminant, c'est que pour ceux qui connaissons vraiment Jésus comme leur sauveur personnel, qu'on puisse avoir la même attitude que Jean. Et lorsque vient le doute, qu'on puisse aller vraiment au pied de la croix afin de lui présenter ces doutes-là et qu'il puisse nous réconforter au travers de tout ce qu'on peut vivre et nous rappeler en même temps que son plan n'a pas changé. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir pour notre plus grand bonheur. Et pour ceux qui ne connaissent pas comme leur sauveur personnel, notre prière, c'est que vous puissiez vraiment réaliser qui il est et que vous puissiez vous confier en lui pour votre destinée éternelle afin d'être heureux avec lui et non pas malheureux loin de lui. Prions. Ô Dieu, notre Père, on te remercie encore une fois de ce que ta parole, elle est complète, qu'elle est là pour répondre à nos questions. Et Seigneur, on te confesse que nous aussi, trop souvent, on peut avoir des doutes. Mais merci de ce que ta parole est là pour nous éclairer, que tu nous donnes ton Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, notre prière, c'est que tu puisses nous faire grandir en toi, afin de toujours lever les yeux vers le ciel et nous attacher à toi et nous attendre à toi. Et notre Père, c'est notre prière aussi que pour ceux et celles qui peut-être ne te connaissent pas encore vraiment, n'ont pas vraiment fait la place dans leur cœur pour le Seigneur Jésus, que tu puisses les amener au pied de la croix. À cet endroit où, justement, Seigneur, on peut être réconcilié avec toi à cause de ce que le Seigneur Jésus a fait par amour pour nous. Donc, bénis-nous aussi tout au long de cette journée et que ton nom puisse être glorifié d'une manière toute particulière pendant cette période de Noël. Amen.